Washington Irving, la légende du vallon endormi. C'était un lieu charmant et fécond en pavots, en songes voltigeants devant l'œil demi-clos, en magique château aux nuages qui passent, château montant toujours qui jamais ne s'efface, le château de l'indolence. Au fond de l'une des criques spacieuses qui dentellent la rive orientale de l'Hudson, vers cette large expansion du fleuve dénommée par les anciens navigateurs hollandais le Tappan Zee, et où toujours il diminuait prudemment de voile et implorait la protection de Saint-Nicolas quand il passait, se trouva un petit bourg marchand ou port rustique que quelques-uns appellent Greensburg, Verbourg, mais qui est plus généralement et plus justement connu sous le nom de Tarrytown, Musebourg. Ce nom lui fut donné, dit-on, autant jadis, par les bonnes femmes des pays adjacents, à cause du penchant invétéré et de leurs époux à s'attarder dans la taverne du village les jours de marché. Qu'il en soit ce qu'il voudra, je ne garantis pas le fait, mais je relate simplement afin d'être précis et de faire autorité. Non loin de ce village, ou peut-être à 3 miles de là, est une petite vallée, ou plutôt un renfoncement du sol, au milieu de collines élevées, qui est un des endroits les plus calmes du monde entier. Un petit ruisseau la traverse mollement, faisant juste assez de bruit pour vous inviter au sommeil, et le sifflement fortuit d'une caille ou le cri discord en un pivert est à peu près l'unique son qui jamais interrompe cette uniforme tranquillité. Je me souviens qu'au temps de mon adolescence, mon premier exploit à la chasse à l'écureuil s'accomplit dans un massif de grands noyers qui ombrage à côté de la vallée. Dans mon excursion, je m'y étais enfoncé vers l'heure de midi, quand toute la nature est particulièrement calme, et la détonation de mon propre fusil me faisait tressaillir quand elle rompait le silence consacré d'alentour et se prolongeait, renvoyé par les échos irrités. Si jamais je désirais trouver un asile où je puisse me dérober au monde et à ses agitations, et couler dans une douce rêverie le reste d'une vie inquiète, je n'en sais pas de plus fécond en promesses que cette petite vallée. Vu l'intense repos de l'endroit et le caractère particulier de ses habitants, qui sont des descendants des colons hollandais primitifs, ce vallon solitaire est depuis longtemps connu sous le nom de vallon endormi, et ses rustiques enfants appelés dans tous les pays circonvoisins les gars du vallon endormi. Une influence somnifère et songeuse semble planer sur ces lieux et courir dans l'atmosphère même. Aucun disent que l'endroit fut ensorcelé par un grand docteur allemand dans les premiers temps de la colonie. D'autres qu'un vieux chef indien, prophète ou voyant de sa tribu, y tenait ses assises avant que le pays fût découvert par Maître Hendrik Hudson. Certain est-il que l'endroit subit encore à présent le joug de quelque puissance magique qui tient sous le charme l'esprit de ces bonnes gens et qui les fait marcher dans une continuelle rêverie. Ils sont adonnés à toutes sortes de croyances merveilleuses, sont sujets aux extases et aux visions, assistent fréquemment à d'étranges spectacles et entendent de la musique et des voix dans l'air. Tout le voisinage regorge d'histoires locales, de lieux où il revient, de superstitions crépusculaires. Les étoiles filent et les météores flamboient dans le vallon plus souvent que dans toute autre partie de la contrée, et la nocturne cavale avec ses 9 poulains semble en faire le théâtre favori de ses gambades. Mais parmi les esprits qui hantent cette région enchantée, il est un esprit dominant et qui semble être le commandant en chef de toutes les puissances de l'air. C'est l'apparition d'une forme équestre sans tête. Suivant quelques-uns, ce serait le fantôme d'un cavalier soi dont la tête fut emportée par un boulet dans quelques batailles sans nom pendant la guerre révolutionnaire, et qui, de temps à autre, est aperçu par les gens du pays, dévorant l'espace dans les ténèbres de la nuit, comme s'il était porté sur les ailes du vent. Ces visites ne sont pas bornées au vallon, mais s'étendent parfois aux routes adjacentes, et particulièrement au voisinage d'une église située non loin de là. Enfin, quelques-uns des historiens les plus dignes de foi de ces parages, qui ont eu le soin de recueillir et de confronter les faits indécis concernant ce spectre, prétendent que le corps du cavalier ayant été enterré dans le cimetière, le fantôme chevauche la nuit vers le théâtre du combat à la recherche de sa tête, et que la rapidité vertigineuse avec laquelle il traverse quelquefois le vallon, semblable à une rafale de minuit, tient à ce qu'il s'est attardé et a hâte de regagner le cimetière avant le point du jour. Telle est la teneur générale de cette superstition légendaire qui a fourni dans cette région d'ombre les matériaux de plus d'un récit étrange. Et le spectre est connu dans toutes les veillées du pays sous le nom de cavalier sans tête du vallon endormi. Il est à remarquer que le penchant aux visions dont j'ai parlé ne se borne pas au naturel de la vallée, mais est, sans qu'il s'en doute, partagé par tous ceux qui y résident un certain laps de temps. Quelque parfaitement éveillé qu'il puisse être avant d'entrer dans cette région somnifère, il ne manque jamais, pour peu qu'il y séjourne, d'aspirer la magique influence de l'air et se mettre à donner dans les imaginations, à rêver des rêves et à voir des apparitions. Je mentionne ce paisible endroit avec tous les éloges possibles, car c'est dans ces petites et solitaires vallées hollandaises que l'on trouve çà et là, au cœur d'un grand état de New York, que la population, les mœurs et les coutumes demeurent inébranlées, tandis que l'immense torrent de la migration et du progrès qui opère de si continuels changements dans d'autres parties de cette turbulente contrée exerce auprès d'eux ses ravages sans qu'ils s'en aperçoivent. Elle ressemble à ces petits trous d'eau stagnantes qui bordent un rapide courant, où nous pouvons voir le fétu, le globule formé par la pluie, à l'ancre et doucement porté, ou tournoyant lentement dans leur port en miniature, insoucieux de la course précipitée du ruisseau. Quoique bien des années se soient écoulées depuis que je foulais les ombres assoupies du vallon endormi, cependant, je me demande si je ne trouverai pas encore les mêmes arbres et les mêmes familles végétant dans son sein protecteur. Dans ce recoin de la nature habitée à une époque reculée de l'histoire américaine, c'est-à-dire il y a quelque 30 ans, un digne homme du nom d'Ichabod Crane, qui séjournait ou, suivant son expression, musait dans le vallon endormi, à cette fin d'instruire les enfants du voisinage. Il était originaire du Connecticut, état qui fournit l'union de pionniers de l'esprit aussi bien que de pionniers de la forêt, et vomit chaque année ses légions de bûcherons de frontières et de maîtres d'école de campagne. Le surnom de Crane, la grue, n'était pas sans avoir quelque rapport avec sa personne. Il était grand, mais excessivement maigre, avait les épaules étroites, des bras et des jambes démesurés, des mains qui se balançaient à 1 mile de ses manches, des pieds qui auraient pu lui servir de pelle, et toute sa charpente flottait lâche et indécise. Sa tête, une tête très petite, plate au sommet, était ornée d'immenses oreilles avec de gros yeux verts de bouteille et un long nez de bécasse, de sorte qu'on eût dit une girouette perchée sur son col en fuseau pour dire de quel côté soufflait le vent. À le voir de profil arpenter rapidement une colline par un jour d'ouragan, avec ses vêtements qui se gonflaient et qui voltigeaient autour de lui, on aurait pu le prendre pour le génie de la famine descendant sur la terre, ou pour quelque épouvantail échappé d'un champ de blé. Quant à son école, oh, c'était un bâtiment peu élevé, composé seulement d'une grande pièce, grossièrement construite avec des troncs d'arbres. Les fenêtres y étaient en partie garnies de vitres, en partie rapiécées avec des feuillets de vieux cahiers de modèles d'écriture. Elle était très ingénieusement fortifiée pendant les heures de vacances au moyen d'une baguette d'osier entortillée dans la clenche de la porte et de pieux placés contre les volets. De sorte que, bien qu'un voleur pût entrer le plus facilement du monde, cependant il éprouva quelque embarras pour sortir. Idée probablement empruntée par l'architecte Jost Van Hunten à l'artifice d'une claire aiguille. L'école était assez isolée, mais agréablement située, juste au pied d'une colline boisée, avec un ruisseau coulant tout auprès et un formidable bouleau des vents à l'une de ses extrémités. De là, le murmure léger des voix de ses élèves repassant leurs leçons pouvait s'entendre par une accablante journée d'été, pareil au bourdonnement d'une ruche d'abeilles, interrompu seulement de temps à autre par la voix grosse d'autorité du maître, pendant des inflexions de menaces ou de commandements, ou d'aventure par le son terrifiant de la férule quand il talonnait quelque musard indolent sur le sentier fleuri du savoir. À vrai dire, c'était un homme consciencieux qui avait toujours présente à l'esprit cette belle maxime: c'est gâter l'enfant que ménager la verge. Les écoliers, dit Chabot-Crène, n'étaient certainement pas gâtés. Je ne voudrais pas cependant qu'on s'imaginât que c'était un de ces cruels potentats de l'école qui se complaisent dans les angoisses de leurs sujets. Non, au contraire, il rendait la justice avec discernement plutôt qu'avec sévérité. Retirant le fardeau de sur ses épaules du faible et le plaçant sur celle du fort. Cet enfant fluet et chétif qui jouait des pieds à la moindre évolution de la férule était indulgemment excusé, mais il satisfaisait aux droits de la justice en infligeant une double ration à quelque petit, robuste, entêté, marmot hollandais à large basque, qui rechignait, faisait le gros dos et devenait hargneux et revêche sous les coups. Il appelait tout ceci remplir son devoir envers les parents, et il n'infligeait jamais un châtiment sans le faire suivre de l'assurance, bien consolante pour le polisson étrillé, qui s'en souviendrait et le remercierait tous les jours de sa vie. Mais quand les heures d'école étaient passées, il allait jusqu'à devenir l'ami, le compagnon de jeu des plus grands. Et les après-midi de congé escortaient vers la maison quelques-uns des plus polis qui se trouvaient avoir de jolies sœurs ou des mamans bonnes ménagères citées pour les richesses de leur buffet. À vrai dire, il trouvait son avantage à rester en de bons termes avec ses élèves. Le revenu qu'il tirait de son école était peu considérable et lui aurait à peine suffi pour se procurer le pain de chaque jour, car il était gros mangeur et, bien qu'efflanqué, avait la puissance de dilatation d'un anacondo. Mais, pour l'aider à subsister, il était, ainsi que cela se pratique à la campagne dans ces parages, nourri et logé chez les fermiers dont il instruisait les enfants. Il vivait successivement avec eux une semaine à la fois, faisant ainsi le tour du voisinage avec tous les biens qu'il eut en ce monde noués dans un foulard de coton. Afin que tout ceci pût ne pas être trop onéreux pour la bourse de ces rustiques patrons, qui sont enclins à considérer les dépenses d'école comme un douloureux fardeau, et les maîtres d'école, comme de purs fainéants, il avait divers moyens de se rendre utile et agréable tout ensemble. Il donnait à l'occasion un coup de main aux fermiers dans les menus travaux de leur ferme, aidait à faire les foins, rajustait les clôtures, menait les chevaux à l'abreuvoir, ramenait les vaches du pâturage et fendait du bois pour le feu d'hiver. Il mettait aussi de côté la dignité magistrale et l'absolu pouvoir avec lesquels il gouvernait son royaume, l'école, et devenait merveilleusement aimable et insinuant. Il trouvait grâce aux yeux des mères en choyant les enfants, surtout les plus jeunes. Et, semblable au lion magnanime qui jadis en usa si généreusement avec l'agneau, il s'asseyait avec un enfant sur un genou et du pied remet un berceau pendant des heures entières sans s'arrêter. En outre de ses autres talents, il était le maître de chant du voisinage et raccrochait plus d'un schelling brillant à instruire les jeunes gens dans la psalmodie. Ce n'était pas un sujet de peu de vanité pour lui, et dimanche, que de prendre sa place à l'église sur le devant de la galerie avec un groupe de chanteurs d'élite, où, dans son opinion personnelle, il enlevait bien facilement la palme des mains du ministre. Toujours est-il que sa voix retentissait beaucoup au-dessus de toutes les autres voix de la congrégation. Il y a de certains fredons qu'on peut encore entendre dans cette église et qu'on peut même entendre d'un demi-mile de là, tout à fait de l'autre côté de l'étang du Moulin, par une silencieuse matinée de dimanche que l'on dit descendre en ligne directe du nez, dit Shabbor Crane. C'est ainsi que dans diverses petites industries, de cette ingénieuse façon que l'on définit communément céder des pieds et des mains, le digne pédagogue menait une existence assez tolérable et était réputé par tous ceux qui ne comprenaient rien aux fatigues du travail de tête, avoir la vie la plus facile du monde. Le maître d'école est généralement un homme de quelque importance dans le cercle féminin d'un voisinage rustique. Étant considéré comme une espèce d'oisif personnage quasi-gentleman, infiniment supérieur par son goût et ses talents aux jeunes gens grossiers de la campagne, et qui plus est, inférieur en savoir seulement au ministre. Son apparition est donc sujette à occasionner certaines petites agitations à la table de thé d'une métairie. Et l'addition d'un plat d'extra, de gâteau ou de sucrerie ou d'aventure, le luxe d'une théière d'argent. Or, notre homme de lettres se complaisait particulièrement dans les sourires des jeunes filles du pays. Comme il figurait au milieu d'elles dans le cimetière entre les offices, les dimanches, cueillant pour elles du raisin sur les ceps de vigne sauvages qui tapissaient les arbres d'alentour, récitant pour leur amusement toutes les épitaphes placées sur les tombes, ou s'ébattant avec tout un essaim d'icelles sur les bords de l'étang du moulin adjacent, tandis que les lourdes eaux de l'endroit, plus timides, restaient niaisement en arrière, envieux de son élégance et de son adresse supérieure. Par suite de son existence semi-ambulante aussi, c'était une espèce de gazette voyageuse, portant de maison en maison tout le répertoire des caquets de la localité, de sorte que ses visites étaient toujours accueillies avec plaisir. Il était en outre estimé par les femmes un homme de grande érudition, car il avait lu plusieurs livres d'un bout à l'autre, et possédait à fond l'histoire de la magie dans la Nouvelle-Angleterre par Cottonmother, à laquelle, soit dit en passant, il croyait très fermement et de toutes ses forces. C'était, dans le fait, un singulier mélange de finesse étroite et de crédulité naïve. Son amour pour le merveilleux et son aisance à le digérer étaient également extraordinaires. Et l'un et l'autre s'étaient accrus, par suite de sa résidence, dans cette région enchantée. Il n'y avait pas de conte trop grossier, trop monstrueux, pour son robuste estomac. C'était souvent son bonheur, après avoir fermé son école dans l'après-midi, que de s'étendre sur le lit de trèfle odorant qui bordait le petit ruisseau gazouillant auprès de sa classe, et là de lire et méditer les récits effrayants du vieux Mother, jusqu'à ce que les ombres croissantes du soir fissent flotter devant ses yeux, comme un brouillard, la page d'impression. Alors, comme il reprenait par le marais, le ruisseau, le bois imposant et sombre, le chemin de la ferme où il se trouvait être caserné, tous les bruits de la nature, à cette heure des enchantements, troublaient son imagination surexcitée. Le gémissement du whippoorwill parti du flanc de la colline, le cri prophétique du crapaud des joncs, ce précurseur de l'orage, la note lugubrement moqueuse de la fraisée, ou bien un bruissement soudain dans le feuillage causé par des oiseaux s'envolant effrayés de la branche, les lampyres aussi qui étincelaient plus splendides dans les endroits plus sombres, de temps à autre le faisaient tressaillir, quand l'un d'eux, d'un éclat plus vif, glissait en travers de sa route. Et si par hasard un grand imbécile d'escarbot venait étourdiment se jeter contre lui dans son vol, le pauvre diable était prêt de rendre l'âme, sous l'idée qu'une sorcière lui avait imprimé sa marque, son unique ressource en pareil cas, soit pour noyer ses pensées, soit pour écarter de lui les esprits malins, était de chanter des airs de psaume. Et les bonnes gens du vallon endormis, comme ils étaient assis le soir sur le pas de leur porte, étaient souvent frappés de crainte et de respect en entendant sa mélodie nasale se dérouler longuement en chaînons mélodieux, flottant au-dessus d'une colline lointaine ou courant sur la route ténébreuse. Une autre source pour lui de fiévreux plaisir était de passer l'hiver de longues soirées avec les vieilles ménagères hollandaises pendant qu'elles étaient assises à filer auprès du feu avec une rangée de pommes rôtissant et bavant le long du foyer et de prêter l'oreille à leurs merveilleux récits de fantômes et de lutins et de chants où ils revenaient et de ruisseaux où il revenait, et de pont où il revenait, et de maison où il revenait, et particulièrement du cavalier sans tête, ou soit galopant du vallon, comme on l'appelait quelquefois. Il les charmait à son tour par ses anecdotes de sorcellerie, ainsi que par celles relatives aux horribles présages, bruits et apparitions sinistres dans l'air, qui étaient si fréquents dans les temps reculés du Connecticut, et les effrayait lamentablement avec ses spéculations au sujet des comètes et des étoiles filantes, et de ce fait, alarmant que le monde tournait positivement sur lui-même et qu'elles avaient la moitié du temps la tête en bas. Mais s'il y avait une jouissance dans tout ceci, pendant qu'il était chaudement tapi dans le coin de la cheminée d'une chambre remplie de la lueur d'un rouge pâle s'échappant d'un pétillant feu de bois, et où par conséquent nul spectre n'osait montrer le bout de son nez, elle était ensuite chèrement payée par les terreurs de son retour au logis. Quelles formes, quelles ombres effrayantes n'assiégeaient pas sa route au milieu des horribles et sombres lueurs que projette la neige pendant la nuit. De quel œil attentif il regardait la moindre brin de rayon de lumière se détacher tremblotant de quelques fenêtres lointaines et ruisseler à travers la campagne déserte. Que de fois il fut terrifié par quelque arbuste couvert de neige, qui, semblable à un fantôme dans son linceul, lui barrait le chemin. Que de fois le bruit même de ses pas sur la croûte de glace que foulaient ses pieds le fit reculer avec une crainte mêlée de respect qui glaçait son sang dans ses veines. Que de fois il redouta de regarder par-dessus son épaule de peur qu'il ne vît quelque étrange créature marchant immédiatement derrière lui. Et que de fois il fut plongé dans une complète épouvante par quelque furieuse rafale hurlant parmi les arbres dans ma pensée que c'était le S-soi galopant dans une de ses courses nocturnes. Tout cela, cependant, n'était que des terreurs enfantées par la nuit, des fantômes de l'esprit qui marchent dans les ténèbres. Et quoiqu'il eût vu bien des spectres dans son temps, était plus d'une fois assailli sous diverses formes par Satan pendant ses courses solitaires, le jour ne laissait pas de mettre un terme à toutes ses angoisses. Et il aurait en somme passé une vie assez agréable, en dépit du diable et de toute sa séquelle, si son chemin n'avait pas été traversé par un être qui cause aux hommes mortels plus de soucis que les fantômes, les lutins et toute la race des sorciers mis ensemble, et cet être était une femme. Au nombre des élèves en musique qui se réunissaient un soir de chaque semaine pour recevoir ses instructions dans la psalmodie, se trouvait Katrina van Tassel, la fille et l'unique enfant d'un riche fermier hollandais. C'était une fraîche jeune fille de 18 ans à peine, dodue comme une perdrix, mûre, fondante, à la pulpe rosée comme une des pêches de son père, et renommée partout non seulement pour sa beauté, mais pour ses grandes espérances. Elle était avec cela, tant soit peu coquette, ainsi qu'on pouvait s'en apercevoir à sa toilette, laquelle était un mélange de modes anciennes et modernes, comme très propre à donner du relief à ses charmes. Elle portait les ornements pur or jaune que sa grand-mère avait apportés de Saardam, le séduisant corsage lacé du vieux temps, et avec cela le jupon court le plus provoquant, afin de mettre en évidence les plus jolis pieds et coups de pied qui fussent dans le pays d'alentour. Ichabod Crane avait pour le beau sexe une tendre et galante inclination. Il n'y a donc pas à s'étonner de ce qu'un si friand morceau trouva bientôt grâce à ses yeux, plus particulièrement encore après qu'il fut allé la voir dans la maison de son père. Le vieux Balthus van Tassel était la peinture achevée d'un fermier prospère, content, au cœur d'or. Il laissait rarement errer, il est vrai, ses yeux ou ses pensées au-delà des limites de sa propre métairie, mais tout dans ce rayon était heureux, bien clos et dans de bonnes conditions. Il se réjouissait de son opulence, mais n'en était pas orgueilleux pour cela, et se piquait plutôt d'une solide abondance que de la forme dans sa manière de vivre. Son château fort était situé sur les bords de l'Hudson, dans l'un de ces verdoyants bien abrités et fertiles recoins où les fermiers hollandais aiment tant à faire leur nid. Un orme immense s'étendait par-dessus ses larges branches, au pied duquel murmurait une source de l'eau la plus fraîche et la plus limpide, qui tombait dans un petit puits formé par un baril, et puis, se glissant doucement, étincelait en disparaissant sous l'herbe pour rejoindre un ruisseau voisin qui gazouillait en courant parmi les aunes et les saules marins. Attenant au corps de logis, s'élevait une vaste grange qui aurait pu servir d'église et dont toutes les fenêtres et les fissures semblaient crever sous les trésors de la ferme. Le fléau y résonnait sans se lasser du matin jusqu'au soir. Des hirondelles et des martinets rasaient les gouttières en poussant des cris aigus et des rangées de pigeons, les uns l'œil regardant en haut comme s'ils examinaient le temps. C'est ceux-ci la tête sous l'aile ou ensevelis dans leurs jabots, d'autres se gonflant et roucoulant et faisant les galants auprès de leurs compagnes, se prélassaient sur le toit aux rayons du soleil. D'énormes pourceaux aux poils lisses grognaient dans le repos et l'abondance de leur parc, d'où s'élançaient de temps à autre des bandes de cochons de lait pour venir renifler l'air. Un grave escadron d'oies blanches comme la neige naviguait dans un étang voisin, escortant des flottilles de canards, des régiments de dindons glougloutaient dans la fourrure de la ferme, et des poules d'Afrique l'arpentaient d'un air courroucé comme des ménagères acariâtres en poussant leurs cris hargneux et rageurs. Devant la porte de la grange marchait fièrement le noble coq, Ce type de l'époux du guerrier et du fin gentleman, faisant choquer ses ailes brillantes et coquericant dans l'orgueil et la joie de son cœur, déchirant et creusant parfois la terre avec ses ergots, et alors appelant généreusement son insatiable famille d'épouses et d'enfants pour partager la riche aubaine qu'il avait faite. L'eau venait à la bouche du pédagogue pendant qu'il embrassait du regard ses magnifiques promesses de splendides régales pour l'hiver. L'œil dévorant de son esprit lui peignait chaque cochon de l'air rôti, circulant à la ronde avec un pudding dans le ventre et une pomme dans son groin. Les pigeons étaient chaudement mis au lit dans un confortable pâté, bien bordé avec une couverture de croûte. Les oies nageaient dans leur propre jus et les canards s'accoupaient agréablement dans les plats, comme de respectables paires d'époux avec la quantité convenable de sauce à l'oignon. Déjà, dans les pourceaux, il voyait découper la savoureuse tranche de lard et l'appétissant le succulent jambon. Pas un dindon qui ne lui apparut délicatement troussé avec son gésier sous son aile, et d'aventure un collier de délicieux saucissons. Jusqu'au coq, à la voix sonore lui-même, qui gisait sur le dos, étendu tout de son long, et formant un des plats de côte, les pattes tournées en l'air, comme s'il implorait humblement cette grâce que, vivant, son cœur chevaleresque dédaignait de demander. Et pendant que, dans son ravissement, Ichabod s'imaginait tout cela, que ses grands yeux verts se roulaient sur les prairies luxuriantes, les fertiles champs de blé, de seigle, de sarrasin et de maïs, et les vergers pliant sous leurs fruits dorés qui entouraient la confortable demeure de Fanta seule, son cœur soupirait pour la jeune fille qui devait hériter de ses domaines, et son imagination se dilatait à l'idée qu'il serait bien facile de les convertir en espèces et de mettre l'argent dans une immense étendue de terrains incultes et de palais en planche au milieu du désert. Que dis-je? Son ardente fantaisie réalisait déjà ses espérances et lui présentait la rougissante Katrina avec toute une famille d'enfants juchés sur le faîte d'un chariot chargé d'un attirail de ménage d'occasion, de pots et de chaudrons se balançant au-dessous, et il se voyait chevauchant une paisible jument, laquelle avait un poulain sur les talons, en route pour le Kentucky, le Tennessee, ou Dieu sait quoi. Quand il eut franchi le seuil de la maison, la conquête de son cœur était achevée. C'était une de ces spacieuses métairies à l'arête très élevée, mais à toiture descendant très bas, construite dans le style transmis par les premiers colons hollandais. Les gouttières en basse saillie, formant un portique le long de la façade, susceptible de se fermer par le mauvais temps. Sous ce portique étaient suspendus des fléaux, des harnais, divers ustensiles de ménage et des filets pour pêcher dans la rivière voisine. Des bancs étaient adossés le long des parois pour s'y asseoir l'été, et un grand rouet à filets placé à un bout et une barre à l'autre indiquaient les différents usages auxquels cet important vestibule pouvait être consacré. C'est par ce portique qu'Ichabod, émerveillé, fit son entrée dans la salle, laquelle formait le centre de la maison et le lieu de résidence habituel. Ici, des rangées de vaisselle d'étain resplendissantes, alignées sur un long dressoir, éblouissaient ses yeux. Dans un coin était un gros paquet de laine tout prêt à être filé. Dans un autre, un amas de tyrtaine tout nouvellement sorti du métier. Des épis de blé de Turquie et des cordons de pommes et de pêches séchées se suspendaient en riant festons le long des murs, se mêlant au clinquant des cosses de poivre rouge. Et une porte laissée entrebâillée lui permit de jeter un rapide coup d'œil dans la plus jolie pièce où les chaises à pieds fourchus et les tables en acajou sombre brillaient comme des miroirs. déchaînaient, avec la pelle et les pincettes, leurs accessoires obligés, étincelaient du milieu de leur fourrée de pointes d'asperges. De fausses oranges et de grands coquillages décoraient la tablette de la cheminée. Des cordons d'œufs d'oiseaux aux couleurs variées se suspendaient au-dessus. Un grand œuf d'autruche se détachait au milieu de la chambre, et un buffet angulaire, laissé ouvert à dessein, étalait d'immenses trésors de vieille argenterie et de porcelaine habilement ajustés. Du moment où Chabot dut jeter les yeux sur ces régions enivrantes, sa tranquillité d'esprit disparut, et dès lors son unique souci fut de savoir comment il gagnerait l'affection de l'incomparable fille de Van Tassel. Par malheur, il y avait dans cette entreprise plus de difficultés réelles que n'a rencontré d'habitude autrefois un chevalier errant, lequel avait rarement autre chose que des géants, des enchanteurs, des dragons enflammés et autres adversaires dont il était tout aussi facile de triompher à combattre, et n'avait à se frayer une route pour arriver au donneur jonc du castel où la dame de ses pensées était refermée qu'à travers ses portes de fer et d'airain, des murailles de diamants. Toute chose dont il venait aussi aisément à bout qu'un homme s'ouvrirait une porte pour parvenir au centre d'un pâté de Noël. Après quoi, la dame lui donnait tout naturellement sa main. Mais Ichabod, lui, avait à toucher le cœur d'une coquette de campagne, flanquée d'un labyrinthe de boutades et de caprices, qui continuellement offrait des difficultés et des obstacles nouveaux. Et de plus, il avait à affronter une multitude de terribles adversaires réels en chair et en os, les nombreux admirateurs rustiques qui cernaient toutes les avenues de son cœur, ne cessant de promener les uns sur les autres des regards vigilants et courroucés, mais tout prêts à se réunir dans l'intérêt commun contre un nouveau compétiteur. Le plus formidable d'entre eux était un gros, bruyant, joyeux compère du nom d'Abraham, ou, suivant l'abréviation hollandaise, Brom van Brandt, le héros de tout le pays à la ronde, lequel retentissait de ses prodiges de force et d'audace. Il était large d'épaules et à jointure double, avec des cheveux de caniche, noirs et courts, et une mine joufflue, bien qu'assez agréable, car il y avait dans son air un mélange d'arrogance et de gaieté. Sa charpente herculéenne et la force peu commune de ses membres lui avaient fait donner le sobriquet de Brom Bones, Broum les eaux, sous lequel il était généralement connu. Il était renommé pour ses connaissances hippiques et son adresse en équitation, sachant aussi bien monter à cheval qu'un tartare. Il était au premier rang à toutes les courses, à tous les combats de coq, et, par suite de l'ascendant que la force corporelle donne toujours dans la vie rustique, il était l'arbitre de toutes les disputes, mettant son chapeau sur l'oreille et rendant ses arrêts d'un air et d'un ton qui n'admettaient ni contradiction ni appel. Il était toujours là, qu'il s'agît d'une bataille ou d'une espièglerie. Mais il y avait plus de malice que de méchanceté dans son fait, et malgré son insolente rudesse, une forte dose de bonne humeur plaisante au fond de tout cela. Il avait avec lui trois ou quatre bons compagnons de sa trempe qui le regardaient comme leur modèle et à la tête desquels il battait la campagne, prenant part à toutes les scènes de querelles ou de galas qui se produisaient dans un rayon de plusieurs milles. Par les temps froids, on le reconnaissait à son bonnet d'enfourure, surmonté d'une triomphante queue de renard, et quand les gens, occupés à moissonner dans la campagne, voyez poindre dans le lointain ce panache historique, allant et venant au milieu d'une escouade de hardis cavaliers, il s'arrêtait toujours pour les acclamer. Parfois, à minuit, on entendait sa bande passer bride abattue devant les fermes, à venir hop hop comme une troupe de Kazakhs du Don, Et les vieilles femmes, réveillées en sursaut dans leur somme, prêtaient un instant l'oreille jusqu'à ce que le fracas de ce tohu-bohu se fût éloigné. Puis s'écriaient « Oh, l'on, c'est encore Brombonne, cette saclique !» Les voisins le considéraient avec un mélange de crainte respectueuse, d'admiration et de sympathie. Et si quelque folle équipée ou quelque dispute entre paysans avait lieu dans les environs, ne manquait jamais de secouer la tête et de jurer qu'il y avait du bonbons là-dessous. Ce héros d'extravagance avait depuis quelque temps choisi la rougissante Katrina pour but de ses rudes galanteries. Et bien que ses cajoleries amoureuses ressemblassent quelque peu aux galantes caresses au badinage délicat d'un ours, cependant, on se disait tout bas qu'elle ne rebutait pas complètement ses espérances. Toujours est-il que, pour les candidats ses rivaux qui ne se sentaient pas d'humeur à traverser un lion dans ses amours, ses avances étaient une injonction de se retirer. Si bien que, quand un dimanche soir, on voyait son cheval attaché à la palissade de Vanta seul, indice certain que son maître était à faire sa cour, ou comme on dit à compter fleurette dans la maison, tous autres prétendants passaient tranquillement leur chemin et allaient porter la guerre dans d'autres parages. Tel était le formidable rival contre lequel Ichabod Crane avait la qualité. Et, toute chose considérée, un plus hardi que lui aurait reculé devant la lutte. Un plus sage aurait désespéré. Mais il y avait dans sa nature un heureux mélange de docilité et de persévérance. Il ressemblait, par la forme et par le fond, à un Jack flexible, sans résistance mais tenace. Il pliait mais ne rompait jamais. Et bien qu'il courbât sous la plus légère pression, du moment où il n'existait plus, crac! Il était aussi droit et portait la tête aussi haute qu'auparavant. Prendre ouvertement du champ contre son rival eût été de la démence, car celui-ci n'était pas homme à se laisser traverser dans ses amours, non plus que ce tempétueux amant, Achille. Ichabod fit donc sa cour d'une façon paisible et doucement insinuante, et sous le manteau de son caractère de maître argenté, il rendait de fréquentes visites à la ferme. Non pas qu'il eût la moindre chose à appréhender de l'indiscrète intervention des parents, qui, si souvent, est une pierre d'achoppement dans le sentier des amoureux. Bald Van Tassel était une commode et indulgente personne. Il aimait sa fille plus encore que sa pipe, et en homme raisonnable, comme en père excellent, la laissait en toute chose agir à sa guise. Son active petite femme, de son côté, avait bien assez d'affaires de s'occuper de son ménage et de diriger la volaille. Car, ainsi qu'elle en faisait sagement la remarque, les canards et les oies sont de folles créatures, et il ne faut jamais les perdre de vue. Mais les jeunes filles peuvent bien se garder d'elles-mêmes. De sorte que, tandis que cette rubante dame courait affairée dans la maison où faisait aller son rouet à un bout du hangar, l'honnête Balt était assis à l'autre, fumant sa pipe du soir et observant les évolutions d'un petit guerrier de bois, vaillamment occupé, une épée dans chaque main, à guerroyer avec le vent sur le pinacle de la grange. Et pendant ce temps-là, Ichabod menait ses affaires auprès de la fille, sous le grand orme au bord de la source, où l'entraînait, dans le crépuscule, cette heure si propice à l'éloquence des amants. Je n'ai pas la prétention de savoir comment s'attaquent et s'enlèvent les cœurs de femmes. Ils ont toujours été pour moi un sujet d'énigme et d'étonnement. Ceux-ci semblent n'avoir qu'un point vulnérable, qu'une porte d'entrée, tandis que d'autres ont mille avenues et peuvent se capturer de mille façons différentes. C'est un chef-d'œuvre d'habileté que de conquérir les premiers, mais une preuve plus grande encore de talent stratégique que de se maintenir en possession des derniers, car il faut alors guerroyer pour sa forteresse, à chaque porte, à chaque fenêtre. Celui qui prend d'assaut 1 000 cœurs vulgaires a donc droit à quelque renommée. Mais celui qui règne sans partage sur le cœur d'une coquette est à coup sûr un héros. Certain est-il que tel n'était pas le cas du redoutable Blom Bones. Et du moment où Chabot Crane lui posait sa candidature, les actions du premier dégringolèrent affreusement. On ne vit plus dès lors son cheval attaché aux palissades le dimanche soir, et une haine mortelle s'éleva peu à peu entre lui et l'instituteur du vallon endormi. Brom, qui avait une certaine dose d'aspérité chevaleresque dans sa nature, aurait volontiers porté l'affaire en champ clos et vidé leurs prétentions sur la dame, suivant la méthode de ses expéditifs et candides logiciens, les chevaliers errants du temps jadis, dans un combat singulier. Mais Chabot avait trop conscience de la force supérieure de son adversaire pour entrer en lice contre lui. Il avait eu vent de la bravade de Bones, qu'il plierait en deux le maître d'école et le placerait sur un rayon de sa classe, et il était bien trop avisé pour lui en donner l'occasion. Il y avait quelque chose d'extrêmement provoquant dans ce système d'obstination pacifique. Il ne laissait à Brown d'autre alternative que de faire avancer son corps de réserve, les malices rustiques à sa disposition, et d'essayer de grossières plaisanteries pratiques sur son rival. Ichabod devint un objet de persécutions fantastiques pour Bones et sa bande d'incultes cavaliers. Ils harcelèrent ses domaines jusque-là paisibles, enfumèrent sa classe de chant, embouchant la cheminée, envahirent nuitamment l'école en dépit de ses formidables attaches d'osier et des pieux garnissant les fenêtres, et virent toutes choses sans dessus-dessous, si bien que le pauvre maître d'école commença à croire que toutes les sorcières de la contrée s'y donnaient rendez-vous. Mais ce qu'il y avait de plus contrariant, c'est que Brome saisissait toutes les occasions de le tourner en ridicule en présence de sa maîtresse, et avait un misérable chien auquel il apprenait à se plaindre de la façon la plus grotesque et qu'il lui présenta comme un rival d'Ichabod pour l'instruire dans la psalmodie. Les choses allèrent ainsi pendant quelque temps sans produire aucun effet matériel sur la situation respective des puissances belligérantes. Par une belle après-midi d'automne, Ichabod, pensif et rêveur, était assis, trônant sur le tabouret élevé d'où il avait coutume de veiller à tous les intérêts de son petit royaume littéraire. Sa main brandissait la férule, emblème de son pouvoir despotique. La verge de justice reposait sur 3 clous derrière le trône, perpétuelle terreur pour les méchants, tandis que, sur le pupitre placé devant lui, se pouvaient voir divers articles de contrebande et armes prohibées saisies sur les personnes de polissons désœuvrés, tels que pommes à moitié mâchées, canonnières, pirouettes, cages à mouches et des légions tout entières de petits coqs de combat en papier. Apparemment, il y avait eu quelque terrible acte de justice récemment accompli, car ses élèves étaient tous ardemment appliqués sur leurs livres ou chuchotaient adroitement derrière, un œil fixé sur le maître, et il régnait dans la classe une espèce de bourdonnante tranquillité. Elle fut tout à coup interrompue par l'arrivée d'un nègre en jaquette et en culotte d'étoupe, avec un à peu près de chapeau, rond et en forme de couronne, comme le chapeau de Mercure, et monté sur le dos d'un ânon tout éraillé, à l'air effarouché, aux 3 quarts usé, qui dirigeait avec une corde en guise de licou. Il arrivait avec fracas à l'école, porteur d'une invitation pour Ichabod à assister au joyeux banquet, à la piquante folie qui devait avoir lieu le soir même chez Meinherr Van Tassel. Et s'étant acquitté de son message avec cet air d'importance et cette prétention au beau langage qu'un nègre est enclin à déployer dans les petites missions de ce genre, il franchit le ruisseau comme un trait, et l'on put le voir remontant précipitamment le vallon, pénétré de l'intérêt et de l'urgence de son mandat. Tout était maintenant agitation, vacarme dans la classe, naguère encore si tranquille. Les élèves eurent à dépêcher leurs leçons sans s'arrêter aux bagatelles. Ceux qui étaient agiles en sautèrent impunément la moitié, et ceux qui n'avaient pas la même prestesse reçurent de temps à autre par derrière une cuisante admonition à cette fin de stimuler leurs ailes ou de les aider à doubler un mot formidable. Les livres furent jetés au loin, sans qu'on se donnât la peine de les serrer sur les rayons, les encriers renversés et les bancs mis sans dessus dessous, et toute l'école licenciée 1 heure plus tôt que l'heure habituelle, s'échappant comme une légion de diablotins, glapissant et vociférant en courant sur le gazon, tout joyeux de leur émancipation prématurée. L'amoureux Ichabod dut alors passer à la toilette au moins une demi-heure au plus qu'à l'ordinaire, brosser et fourbir son meilleur, et à vrai dire unique habit noir de rouille, et s'arranger les cheveux devant un morceau de miroir cassé qui était accroché dans l'école. Afin de pouvoir paraître devant sa maîtresse dans le véritable style d'un cavalier, il emprunta un cheval au fermier chez lequel il était domicilié, un vieux Hollandais, colère du nom de Hans van Ripper, et ainsi, galamment monté, se mit en campagne comme un chevalier errant en quête d'aventure. Mais il serait à propos que, suivant les saintes traditions du récit romanesque, je donnasse quelques descriptions de la mine et de l'équipement de mon héros et de son coursier. L'animal qu'il montait était un cheval de charrue hors d'usage, à qui les ans n'avaient guère laissé que ses vices. Il était maigre et velu, avec un cou de brebis et une tête qui ressemblait à un marteau. Sa crinière et sa queue, d'un noir sale, étaient entremêlées de cotylédons. Un œil avait perdu sa pupille et était vitreux comme celui d'un spectre. Mais un franc démon prêtait à l'autre son éclat. Pourtant, il devait avoir eu du feu, de l'ardeur dans son temps, si l'on en peut juger d'après son nom, qui était Gunpowder, poudre à canon. Il avait été, dans le fait, le coursier favori de son maître, l'irascible Van Ripper, lequel était un furieux cavalier et avait très probablement communiqué à l'animal quelque chose de son propre caractère, car, vieux et hors de service comme il paraissait, il y avait en lui plus du démon que dans n'importe quel jeune poulain de la contrée. Ichabod était une sortable figure pour un semblable coursier. Il avait les pieds dans des étriers trop courts qui amenaient ses genoux presque au niveau du pommeau de la selle. Ses coudes pointus sortaient comme ceux d'une sauterelle. Et il tenait son fouet perpendiculairement dans sa main ainsi qu'un sceptre. Et pendant que son cheval avançait par saccades, le mouvement de ses bras ressemblait assez au battement de deux ailes. Un petit bonnet de laine reposait sur le haut de son nez, car on pouvait appeler ainsi l'étroite bande de son front. Et les basques de son habit allaient flotter presque jusque sur la queue du cheval. Tel était le coup d'œil qu'offraient le Ichabod et son coursier, alors qu'ils passaient lourds et gauches le seuil de la porte de Hans van Ripper. Et c'était vraiment un spectacle tel qu'on en voit rarement en plein midi. C'était, comme je l'ai dit, une belle journée d'automne. Le ciel était pur et serein, et la nature avait endossé cette éclatante et riche livrée que nous associons toujours à l'idée d'abondance. Les forêts avaient revêtu leur mélancolique couleur brune et jaune, tandis que quelques arbres de l'espèce la plus tendre pincés par les gelées, étalaient leurs teintes brillantes d'oranger, de pourpre et d'écarlate. De fuyantes troupes de canards sauvages commençaient à faire leur apparition au haut des airs. On pouvait entendre le cri de l'écureuil sortir des bouquets de hêtres et de noyers, et le sifflement pensif de la caille s'échappant par intervalles du chaume de quelques champs voisins. Les petits oiseaux savouraient leur banquet d'adieu. Dans l'enivrement de leur bruyante fête, ils battaient des ailes, gazouillant et se jouant d'arbre en arbre, de buisson en buisson, rendus capricieux par la profusion, la variété même qui les entourait. C'était l'honnête rouge-gorge, gibier favori des chasseurs adolescents, avec son cri vibrant et plaintif. Et les merles aux notes précipitées, s'envolant par bandes noires, et le pivert aux ailes d'or avec son panache cramoisi, son large gorgerin noir et son plumage splendide, et l'oiseau du cèdre avec ses ailes nuancées de rouge et sa queue nuancée de jaune, et son petit bonnet de cavalier fait de plumes, et le jais bleu, ce muscadin bavard, dans son élégant habit bleu clair et son blanc vêtement de dessous, jetant des cris aigus et caquetants, en remuant la tête et frappant du bec, et faisant la référence, et affectant d'être en de bons termes avec tous les chantres du bocage. Cependant, Quichapode avançait lentement et par secousses, son œil, toujours ouvert au moindre symptôme d'abondance culinaire, s'égarait avec délices sur les trésors de l'automne. Partout, il voyait d'immenses quantités de pommes, celles-ci étageant sur les arbres leur massive opulence, celles-là serrées pour le marché dans des paniers et des barils, d'autres amoncelées en piles étincelantes pour le pressoir au cidre. Plus loin, il découvrait d'immenses champs de blé de Turquie, avec ses épis d'or perçant sous leurs couverts de feuilles, qui faisaient briller aux yeux la promesse de gâteaux et de bouillies, et les citrouilles jaunes couchées aux pieds qui tournaient du côté du soleil leurs belles panses arrondies et dévoilant d'amples perspectives de tourtes des plus savoureuses. Et puis voilà qu'il traversait des champs de sarrasin parfumés, respirant l'odeur de la ruche. Et comme il les contemplait, son esprit mordait doucement, par anticipation, à de friands gâteaux bien beurrés et garnis de miel ou de mélasse par la délicate petite main à fossette de Katrina Fantassel, nourrissant ainsi son esprit d'une foule de douces pensées et d'hypothèses sucrées. Il faisait route le long des flancs d'une chaîne de collines qui encaisse quelques-unes des plus charmantes scènes qu'offre le majestueux Hudson. Le soleil, tournant sur ses roues, plongeait peu à peu son large disque dans l'Occident. Le vaste sein du Tapazhaozi dormait immobile et poli comme un miroir, hormis que, çà et là, une molle ondulation balançait et prolongeait l'ombre bleue d'une montagne lointaine. Quelques nuages ambrés flottaient dans le ciel, sans trouver un souffle d'air pour les pousser. L'horizon était d'une jolie teinte d'or, se fondant graduellement dans un vert pomme clair, pour de là passer au bleu foncé de la voûte céleste. Un oblique rayon s'attardait sur les crêtes boisées de précipices, avançant au-dessus de quelques parties du fleuve, donnant plus de profondeur aux nuances gris sombre et pourprées de leurs flancs rocheux. Un sloop se berçait dans le lointain et descendait lentement avec le courant, sa voile négligemment adossée contre le mât. Et comme la réflexion du ciel faisait courir la lumière sur l'onde silencieuse, il semblait que l'embarcation fût suspendue dans l'air.